Voilà, on va continuer notre culte ce matin par la méditation des Écritures, la proclamation de l'Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ, Évangile qui libère pour ceux qui peut-être n'ont pas toutes les clés de compréhension, tous les éléments de langage. Quand on parle de l'Évangile, on ne parle pas forcément d'un livre, on parle d'une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est le sens du terme en grec, hein. La bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle ? Eh bien, c'est qu'elle vient remplacer la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que, alors que nous étions esclaves du péché, esclaves de choses qui nous maîtrisaient, qui avaient une emprise sur nous, bien, Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a libérés, nous a affranchis de cet esclavage. Voilà, simplement. Et tout ce que nous faisons, et la conséquence de cette bonne nouvelle. Toute l'Écriture, Ancien, Nouveau Testament, parle de cette libération. Il faut lire la clé d'interprétation, la clé de lecture de la Bible, c'est l'Évangile. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a que le oui, c'est un texte de saint Paul, il n'y a que le oui et l'amen. Tout est accompli par notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même l'a dit à la croix, il y a un mot, télétestai en grec, tout est accompli. C'est un des derniers mots que Jésus a prononcé à la croix. C'est-à-dire que toute son œuvre était maintenant accomplie, l'œuvre que le Père lui avait confiée, à savoir de porter nos péchés à notre place. Voilà. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il l'a glorifié et que maintenant Jésus-Christ est assis à la droite du Père, élevé en dignité, parce qu'il a accompli pleinement l'œuvre du Père. Voilà l'Évangile résumé en quelques phrases. Et donc nous allons lire ensemble l'Évangile, l'Épître aux Romains, un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains, plutôt, au chapitre 8, Épître aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 17. C'est la deuxième partie du message que j'ai donné il y a deux semaines de cela sur l'adoption. C'est la deuxième partie, donc, sur une thématique qui parcourt aussi le Nouveau Testament, c'est-à-dire celle de l'adoption. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. On lit donc Épître aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 17. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, jusque-là, la lecture des Écritures. Alors, je vous ferai un petit dernier rappel sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Dans les Écritures, il y a trois termes qui sont importants concernant justement l'Évangile. D'abord, par Jésus-Christ, pour tous ceux qui placent leur foi en lui, eh bien, l'Esprit Saint nous régénère, c'est-à-dire qu'il nous donne une nouvelle vie. Deuxièmement, la justification. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, en Christ, nous donne un nouveau statut légal devant Dieu. C'est quoi un nouveau statut ? Eh bien, c'est le fait que désormais, il nous regarde comme des hommes et des femmes justifiés, qui ne sont plus sous la condamnation du péché. Très important. La régénération, donc, il nous donne une nouvelle vie. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes enfantés, en quelque sorte, à la vie de Dieu. La justification, Dieu nous regarde au travers de la justice du Christ, qui lui-même a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il nous couvre de la justice du Christ. Nous sommes désormais justifiés devant Dieu, c'est-à-dire que Dieu met sur notre compte la justice de son Fils. Nous pouvons proclamer que désormais notre nom est inscrit sur le livre de vie, que nous ne sommes plus sous la condamnation, quel que soit ce que les hommes ou le diable ou je ne sais trop quoi, ou parfois même notre propre cœur pourrait nous faire croire. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes plus sous la condamnation. Et l'adoption, ce qui nous regarde aujourd'hui, Dieu nous donne, nous fait entrer dans une nouvelle famille. C'est-à-dire que, puisqu'il nous a établis fils et filles de Dieu, enfants de Dieu, désormais nous regardons tous les chrétiens qui sont passés par cette conversion, par ces étapes-là, nous les regardons comme nos frères et sœurs, parce que ce sont véritablement des frères et sœurs en Christ. Et pour cette raison-là, nous pouvons dire que nous sommes maintenant inclus dans cette nouvelle famille. Vous remarquerez que les trois fois, c'est le mot « nouveau »,« nouvelle » qui revient. Oui, si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Plus l'ancienne vie, mais la nouvelle vie. Plus la condamnation, mais la justification. Plus l'isolement et le combat personnel contre mes propres défis, mais adopté dans la nouvelle famille de Dieu, j'ai le secours de mes frères et sœurs, je suis au bénéfice du secours de mes frères et sœurs. Donc l'adoption est un thème très important que nous venons de voir au travers de ce texte de Romains 8. La première chose, je voudrais qu'on s'attarde sur les deux, trois premiers versets, versets 12, 13 et 14. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, donc, enfant adopté par Dieu, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon les désirs de l'esprit. D'ailleurs, si vous lisez les versets précédents, il est parlé de désormais de cette confrontation pour ceux qui sont enfants de Dieu entre les désirs de la chair qui nous habitent encore malgré tout, malheureusement, et puis les désirs de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu est en nous. Il y a donc une lutte, un combat qui est finalement sain. Maintenant que nous avons l'esprit, nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions avant, c'est-à-dire selon la chair. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Versets 13 et 14. Quelle est la signification concrète de cette conduite par l'esprit? Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc l'adoption fait que désormais nous sommes conduits par l'esprit de Dieu. Quel est le sens de cette conduite? Souvent, cette expression-là a été prise comme, si vous voulez, une sorte de GPS intégré que nous aurions pour nous dire ce que nous devrions faire chaque jour, etc. Alors, bien sûr, l'Esprit de Dieu étant à nous, il nous inspire, on est d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que ce texte-là, précisément, veut nous faire comprendre par la conduite par l'Esprit? C'est le contexte des versets précédents, qui l'explicite clairement. L'esprit d'adoption qui nous conduit à aimer Dieu, nous conduit effectivement, dans la vie de tous les jours, à faire des choix que nous n'aurions pas faits, des alternatives que nous aurions prises auparavant, différentes. Désormais, nous aimons notre Père. Désormais, la chair, nous la regardons comme crucifiée à la croix dans notre identité au Christ mort et ressuscité. Voilà ce que veut dire être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est vivre dans la sainteté du Christ. C'est pas demander si je dois me tourner à droite ou à gauche ou là. L'Esprit de Dieu, bien sûr, va travailler nos cœurs, mais c'est par le fait que nous nous soumettons désormais à l'Esprit de Dieu que notre vie va prendre une direction différente et que nous serons inspirés, justement, pour faire les bons choix. On raconte l'histoire d'un jeune, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, cette affaire, mais un jeune chrétien américain qui, quand il traversait son campus, il avait un arbre au milieu du champ, et puis chaque fois, il se posait la question, Esprit de Dieu, est-ce que je dois passer à gauche ou à droite? Bon, bien sûr, ça semble un peu ridicule, mais ça dit beaucoup du mysticisme dans lequel parfois on peut tomber. Et alors, bon, il ne savait pas, bon, je passe à gauche. Le soir, il rentrait, je passe à gauche ou à droite? Inspire-moi. Réponse du Seigneur, je t'ai donné un cerveau et ma parole. Bon, je crois que arrêtons d'être mystiques et de chercher des choses qu'on n'a pas à chercher. Peut-être que parfois, malheureusement, cette recherche, en fait, est une façon d'être dans le déni un peu de ce que nous devrions faire, de ce que nous savons que nous devons faire, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, il nous inspire. Donc l'esprit d'adoption nous conduit, oui, effectivement, mais il nous conduit quoi ? À aimer Dieu. À aimer Dieu. Premier point, verset, d'ailleurs, c'est les versets 8 et 9 précédents qui le disent. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, plaire à Dieu, oui, désormais, nous aimons Dieu parce que nous le considérons, puisque nous sommes adoptés comme notre Père. Et donc, nous désirons lui obéir parce qu'il est notre Père, parce que nous l'aimons. C'est le deuxième point. Et nous lui obéissons comment ? Eh bien, en délaissant notre ancienne manière de vivre. Dieu transforme notre caractère. Dieu transforme nos pensées. L'esprit d'adoption nous conduit donc en nous inspirant pour que nous prenions conscience du fond mauvais de notre cœur, de la perversité de nos pensées. Reconnaissons que parfois nous avons des pensées qui nous traversent, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont surtout pas inspirées par son esprit. Donc oui, nous sommes conduits à penser comme lui. Nous sommes conduits dans un véritable apprentissage, en connaissant sa volonté par sa parole, l'Esprit de Dieu, oui, conduit les enfants de Dieu. L'esprit d'adoption donc nous conduit aussi en nous rappelant à l'ordre, en nous remettant sur la bonne voie, quand nous nous sommes refroidis, quand nous nous sommes endormis, quand nous avons négligé nos engagements. La vie chrétienne est une communion filiale avec le Père céleste. La conformité du chrétien sur terre avec ce que Dieu attend de ses fils adoptés, elle est appelée dans la Bible la conduite de l'esprit. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien, font mourir les actions de la chair qui veulent prendre le pas, qui veulent avoir une emprise sur nos vies. La sainteté à laquelle nous sommes appelés n'a rien à voir avec une sainteté légaliste, bien sûr. J'ai dit tout à l'heure que l'Esprit de Dieu nous apprenait à aimer Dieu. Et pour cette raison, nous voulons lui obéir, parce qu'il est notre Père. Nous le savons. Nous savons qu'il est là près de nous, qu'il nous aime. Et nous voulons donc lui plaire. Nous voulons marcher avec lui. Donc ce n'est pas une sainteté légaliste. Fais ci, fais pas ça. Bien sûr que nos vies sont bornées par des choses que nous savons mauvaises. Évidemment, mais l'évangile n'est pas une morale. L'évangile, c'est une vie nouvelle. C'est une vie qui nous apprend à aimer Dieu, qui nous apprend à marcher dans la sainteté, à marcher dans l'obéissance. Ce n'est pas un code de loi. C'est une vie nouvelle. C'est un nouveau chemin. C'est une joie nouvelle. Et nous prenons notre plaisir, nous prenons notre pied à aimer Dieu. Alléluia. C'est ça l'évangile. Et si parfois on peut se poser des questions, effectivement, c'est normal. Et tant mieux, si on se pose des questions, c'est que justement l'Esprit de Dieu travaille notre cœur. Le Seigneur saura nous indiquer la voie à suivre. Et puis nous avons aussi puisque nous sommes dans la famille de Dieu, que nous avons été adoptés, nous avons le conseil aussi fraternel de ceux qui nous entourent. Donc cette sainteté, elle prend sa source dans la communion avec le Père par l'œuvre de Jésus et rendue opérante par l'esprit d'adoption. Deuxième point, les versets 15 à 16. Il est parlé justement de cet esprit d'adoption. Vous avez reçu, verset 15, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, c'était le cri des Israélites pour s'adresser à leur père dans le besoin, quand ils étaient dans le besoin. « Papa, viens à mon secours ». L'esprit d'adoption donc nous fait prier. « Oui, viens papa, viens à mon secours ». Parce que Christ a été fait frère finalement quelque part, il est devenu notre frère, que nous avons été adoptés, que nous avons le même Père. Et comme Jésus à la croix a pu prier du fond de sa détresse, ou même à Gethsémané, « Éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté », bien nous aussi, nous prions, « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Et Dieu vient à notre aide par son esprit. Nous sommes donc alors introduits dans la grande famille de Dieu, frères et sœurs, sur un même pied d'égalité. Nous prenons conscience du caractère filial par son esprit et nous désirons honorer cette famille, la servir, nous mettre au service de tous ceux avec qui l'Esprit de Christ nous a unis. L'esprit d'adoption nous fait donc expérimenter chaque jour une communion profonde avec le Père et avec tous ceux qu'il a adoptés. L'esprit d'adoption nous assure que nous avons auprès de notre Père toutes les ressources nécessaires pour notre croissance spirituelle. Alors, plutôt que de chercher des expériences extraordinaires, au demeurant que Dieu peut nous faire expérimenter, ou des transformations subites qui nécessiteraient finalement aucun effort de discipline et d'obéissance à l'Esprit Saint de notre part, recherchons plutôt à nous plonger dans cet esprit d'adoption afin de mieux connaître le Dieu qui nous a adoptés. James Packer, un théologien anglican, dit ceci, « Cette recherche d'une explosion intérieure n'est pas la bonne façon de comprendre la vie chrétienne. Recherchons plutôt une communion intérieure qui va nous conduire dans un vrai challenge, je dirais, avec le Seigneur. C'est ça le ministère de l'Esprit. L'Esprit nous pousse à prier et à confesser Abba, Père, chaque jour. Mais pour saisir ce précieux privilège de prononcer ces mots, il faut d'abord comprendre ce qu'est cette adoption et la puissance et indestructible assurance qui lui est attachée. Tout ce que fera le Saint-Esprit nous amènera toujours et encore à vivre une relation filiale avec Dieu. L'Esprit-Saint, l'apôtre Jean nous dit, ne parlera pas de lui-même, mais il nous conduira par Jésus-Christ à aimer, à adorer notre Père et donc à le servir au sein de sa famille qu'est l'Église de Jésus-Christ. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates 4, 6. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Et effectivement, chaque jour, le Saint-Esprit à nous, eh bien, nous pousse à dire oui, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà comment je peux être conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit d'adoption n'a pas d'autre tâche que de nous amener à saisir toujours mieux cette relation filiale et donc de nous conduire à aimer Dieu, notre Père. Et en le regardant comme notre Père, nous nous mettons dans une situation juste de fils aussi. Et donc, un fils est appelé à écouter son Père, et à l'aimer et à lui obéir. C'est donc à une communion que nous sommes appelés. Et cette communion nous conduit naturellement à vivre la joie exaltante de nous savoir tant aimés et si merveilleusement accueillis par notre Père. La conception du Nouveau Testament de la vie chrétienne, elle est donc fondée sur notre compréhension de cette communion, puisque nous sommes adoptés par ce Père. Nous désirons donc maintenant marcher d'obéissance en obéissance, de communion en communion, transformé à la même image, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, transformé à la même image de gloire en gloire. Et donc, nous considérant comme des fils, nous rentrons dans une attitude d'humilité aussi par rapport à notre Père. Parce qu'en nous approchant de lui, en tant que Père, nous réalisons d'autant mieux notre statut de fils et de fille de Dieu. Alors peut-être posons-nous cette question, si notre vie de prière peut nous sembler peut-être si restrictive, si peu audacieuse, peut-être est-ce parce que nous ne vivons pas cette relation, chacun de nous, de façon plus approfondie, cette relation d'enfant adopté comme Jésus, qui de temps en temps, vous savez, dans les évangiles, il est dit qu'il se retirait pour prier son Père, tout petit d'ailleurs, tout enfant, dès l'âge de 12 ans. Ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père ? Voilà le chemin de grâce dans lequel le Seigneur veut nous conduire. Regardons maintenant le verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alors, dans ce verset, nous avons la promesse d'un héritage. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, afin d'être glorifiés avec lui. En quoi consiste cet héritage ? D'abord dans le fait que nous serons rendus semblables à Jésus. C'est ainsi que nous participerons à la gloire de Christ. Quand Jésus reviendra, nous serons transformés, nous ressusciterons. Alors, nous ne serons plus dans cette lutte contre le péché. Nous n'éprouverons comme lui, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire nous n'éprouverons comme lui plus aucune chute ni hésitation. Comme lui, nous partagerons une perfection en sainteté. Comme lui, nous serons d'une humeur égale en tout temps. Reconnaissons que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, pour chacun de nous. Comme lui, nous serons habités par une joie permanente. Est-ce que nous aspirons pas à ça ? C'est pour cela que le peuple de Dieu dit « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Parce qu'alors, nous serons semblables à lui, nous serons rendus semblables à Jésus. Comme lui, nous serons constamment dans une paix que rien ne pourra troubler. Comme lui, nous goûterons à une communion intense avec le Père. Certaines religions promettent un paradis artificiel. En fait, ce paradis artificiel n'est rien d'autre que des joies terrestres multipliées par mille. Elles ne sont que l'écho charnel amplifié à l'infini des plaisirs du monde. Mais notre adoption nous conduira à goûter cette communion spirituelle que j'ai décrite tout à l'heure. Communion spirituelle que nous vivons dès maintenant. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc nous vivons déjà, cet héritage nous est promis. Nous goûtons déjà cet héritage, puisque nous ne sommes plus des esclaves. Et parce que nous sommes des fils, nous sommes aussi héritiers par la grâce de Dieu. Galates 4, 7. Tout ce qui aujourd'hui dans notre position d'enfant adopté, d'enfant de Dieu, tout ce qui est à l'état embryonnaire, eh bien, se réalisera à ce moment-là, à son retour. Toutes ces choses-là se développeront définitivement. Nous serons donc semblables à lui. Bien-aimés, c'est ce que dit l'apôtre Jean aussi dans son épître, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc déjà, on est dans le déjà. Mais, le pas encore, ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 2. Quand il apparaîtra, nous deviendrons semblables à lui. Oui, d'accord, mais ce que nous serons à ce moment-là, quand il apparaîtra, nous le sommes déjà. Comme une graine qui a été semée, cette graine, si c'est une graine bien de tomate, elle donnera des tomates, pas autre chose. Et donc nous serons réellement, non pas des tomates, mais ce que nous sommes réellement déjà, des enfants de Dieu. Donc nous le sommes déjà. Cette graine, elle est là, elle est en nous, la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, non pas aura la vie éternelle. C'est le présent. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle et la colère de Dieu ne demeure pas sur lui. Mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui a le Fils, il est déjà garant que la vie éternelle est en lui et qu'il vit déjà cette communion. Ce que nous serons donc à ce moment-là, nous le sommes déjà. Ce que nous serons à son retour, nous sommes déjà en train de le devenir aussi dans le présent. Pourquoi ? Parce que cette graine, elle continue de pousser, elle continue de croître. Et ça, c'est le processus de sanctification auquel nous sommes tous appelés. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur ». Évidemment, puisque cette sanctification dépend de cette graine qui a été semée au départ. Enfin, ce que nous serons à son retour, alors oui, c'est le futur, apparaîtra en pleine lumière. Mais non pas parce que ce qui apparaîtra n'existait pas auparavant, mais parce que cela était bien présent, alors nous serons semblables à lui à son retour. Parce que cela habitait déjà dans nos vies. Cette graine était semée dans nos vies. La graine de la vie de Jésus avait été semée dans nos cœurs. Alors, elle sera manifeste. Elle sera pleinement présente, inscrite aux yeux de tous, aux vues et aux su de tous. L'esprit du ressuscité, alors, sera manifesté. L'esprit d'adoption par lequel, avec Jésus, nous pouvons dire « Abba, Père ». En tant qu'enfants de Dieu adoptés par le même Père, nous sommes donc co-héritiers avec Christ parce que c'est en lui que nous vivons la vie éternelle, les bénédictions promises. Il est lui-même notre frère, son Père est aussi le nôtre. Pour cette raison, nous sommes co-héritiers, héritiers avec lui et en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Identifié à lui, eh bien alors nous croîtrons, je ne sais pas comment il faut dire au présent, déjà dans sa grâce, nous croissons, des verbes difficiles à conjuguer, et pourtant nous sommes appelés justement à croître. Un héritage qui implique aussi donc des souffrances, c'est ce que dit le texte, allons jusqu'au bout du texte, n'ayons pas peur, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Un héritage donc qui implique aussi des souffrances à cause de notre identification à Jésus. Co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est donc dans notre identification à sa mort-résurrection que nous souffrons avec le Christ. Nous pouvons souffrir du rejet, du mépris, de l'indifférence, de la trahison, de ceux à qui nous témoignons du Seigneur Jésus, parfois même au sein même des familles, et puis ne parlons pas des pays où les chrétiens sont persécutés. Quiconque revendique l'héritage de Jésus suivra Jésus dans sa vie. Et Jésus l'a dit lui-même, hein, ce qu'ils m'ont fait, il parlait bien sûr de la persécution des pharisiens, ils vous le feront aussi. Si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il me suive. Donc, oui, suivre Jésus dans sa vie, y compris dans sa vie de souffrance, voire de rejet à cause de son obéissance au Père. Quiconque a cette espérance en Jésus se purifie comme lui-même est pur. Donc, être co-héritier avec Jésus nous conduit forcément à suivre les mêmes voies. Nous suivrons Jésus parce que c'est la vie de Jésus qui nous anime. Ce que Jésus a vécu, il l'a vécu non seulement à notre place, mais aussi en premier. En premier dans le sens qu'il a été prémisse. C'est-à-dire qu'il a inauguré ce chemin de vie dans lequel nous le suivons. Prémisse de ceux qui lui appartiennent, en premier. De ceux qui viennent après lui. parce que nous expérimentons sa gloire et ses souffrances co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc pour conclure, je résume ce que j'ai développé. Premièrement, en tant qu'enfants adoptés par Dieu, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon les désirs de l'Esprit, dans une vie de sainteté, dans une vie d'obéissance au Père, parce que, comme je l'ai dit, nous l'aimons comme un Père qu'il est devenu pour nous, et comme des fils que nous sommes devenus pour lui. Deuxièmement, l'esprit d'adoption nous apprend à aimer Dieu, par conséquent à lui obéir et à penser comme lui, cet esprit d'adoption. Et troisième point, l'esprit d'adoption nous révèle aussi la gloire de l'espérance qui attend les enfants de Dieu, c'est-à-dire cet héritage promis avec les souffrances liées à notre identification à Christ, verset 17. Amen. Voilà, je vous invite à laisser reposer ces paroles dans notre cœur et à prendre un temps de méditation, de prière.